Voilà. Nous allons pouvoir entendre le passage biblique choisi par Gilles aujourd'hui, au premier livre des Rois, au chapitre 8, les versets 54 à 57. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse pas. » Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. « N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ».
Je vous invite à chanter le cantique 308 dans le petit recueil bleu Louanges et prières. 308, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
Viens, ô Dieu, inspire-nous. Toi, dont le feu embrasait les anciens prophètes, toi, source de notre vie et de notre amour, couvre-nous de ta présence. Viens nous donner ton esprit. Ouvre nos esprits et apaise-les lorsqu'ils sont enfiévrés ou fatigués. Et si ton souffle pénètre notre âme, nous serons unis à toi et nous dirons avec les anges les merveilles de ton amour. Sur l'esplanade du temple, le roi Salomon rassemble tout le peuple. C'est la dédicace du temple. L'auteur du Livre des Rois nous la raconte à sa manière, de la manière dont, selon lui, cela n'a pas pu manquer de se passer. Et il nous dit, Salomon, commencez par étendre les mains vers le ciel, vers Dieu, en ce début d'une nouvelle ère qui s'ouvrait avec ce temple tout nouveau qui permettait une nouvelle manière de vivre avec Dieu. Et comme nous sommes au début de l'année, j'ai pensé, nous aussi d'une certaine manière, nous entrons dans une nouvelle période, l'année 2021, qui sera ce qu'elle sera. Salomon lève les mains vers Dieu et le bénit d'abord. Puis, il se tourne vers le peuple et il bénit le peuple. Je ne sais pas ce que vous auriez pensé qu'il aurait pu dire au peuple en ce premier jour de cette nouvelle ère. Peut-être que vous diriez, il aurait dit au peuple, vous aurez la santé, je vous fais des vœux, avant tout, la santé. Nous aurions ajouté, puis que Dieu nous débarrasse de ce coronavirus, tout de même. Je pense que les Anglais diraient que Dieu nous permette de vivre un Brexit supportable. Nous pourrions dire aussi que Dieu nous libère de toutes ces guerres. En Afghanistan, au Sahel, encore 2 soldats abattus. Que Dieu nous libère du racisme, de l'antisémitisme, des paroles méchantes, insupportables, que nous entendons, que nous disons même parfois. Eh bien, Salomon, dit l'auteur du Livre des Rois, n'a rien dit de semblable au peuple de son époque. Il n'a dit qu'une chose. « Béni soit Dieu qui vous a donné le repos, la menoucha. » Peut-être que vous diriez, avant de penser que Dieu nous donne ce qu'il nous faut pour vivre, nous pourrions, nous, prendre des décisions de ce que nous, nous devons faire pour que cela plaise à Dieu. Nous aurons une vie plus saine. On fera quand même un peu plus de sport, on arrêtera de fumer. On aura un esprit plus positif. On ne dira plus de paroles négatives. On sera plus ouvert, on sera plus accueillant. On lira sa Bible plus régulièrement. On ira au temple plus souvent. On comblera le déficit de la paroisse sur le plan financier. On s'engagera un peu plus dans du bénévolat. Et bien, c'est exactement tout cela que Salomon n'a pas demandé au peuple. Il ne lui a rien demandé. Il lui a seulement dit « Béni soit l'Éternel qui nous a donné la menoucha ». Il l'a donné, on l'a. Avec cela, pense Salomon, eh bien, on peut vivre cette période qui s'ouvre devant nous. La menoucha, c'est quand on n'a pas peur pour tout ce que nous avons à faire, à être. C'est quand on n'est pas angoissé, c'est quand on a un esprit calme et assuré, courageux, fort. On sait qu'avec toutes les forces maléfiques que nous aurons à combattre dans le temps qui vient, qui s'ouvre devant nous, nous avons tout ce qu'il nous faut grâce à Dieu pour vivre comme des enfants de Dieu. Ça n'est pas une espérance hypothétique, comme si l'on disait « j'espère que ça ira bien ». Salomon dit « on l'a eu, on l'a, la menoucha est dans nos cœurs, le repos ». L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, a repris cette idée. Il a dit « celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de toutes ses œuvres comme Dieu des siennes ». Ça me fait plutôt penser au Shabbat. Il y a 2 autres mots que menoucha et Shabbat. Le Shabbat, c'est quand on ne fait rien. Dieu a fait le monde en 6 jours et le 7e jour, il n'a rien fait. C'est le Shabbat. Le Shabbat, on ne fait rien. C'est le vrai repos. On ne doit même pas marcher vite dans la rue, il faut marcher lentement. Mais la menoucha, ça n'est pas ne rien faire. La menoucha, c'est faire tout ce qu'on a à faire. Du dimanche au vendredi, nous le dirions du lundi au samedi. Tout ce qui est devant nous dans notre vie, le faire avec calme, dans un esprit reposé. Ça, c'est la menoucha, ce n'est pas le Shabbat. Il y a un autre mot, vous savez, les Juifs aiment se saluer en disant « shalom, shalom ». Le shalom, alors c'est l'avenir. Le shalom, c'est ce qu'on espère, qui va nous être donné par Dieu, par le roi, s'il est un bon roi. Le shalom, c'est quand tout le monde, tout le peuple, chacun sera sous sa vigne, sous son figuier, et boira l'eau de sa propre citerne. Alors, c'est le shalom. Comme disait quelqu'un, c'est pas demain la veille. Mais la menoucha, ce n'est pas demain, Ça n'est pas plus tard, ça n'est pas s'il plaît à Dieu, c'est nous l'avons eu, c'est déjà passé. La menoucha, c'est nous pouvons affronter tout ce qui est là devant nous et qui ne saurait manquer de nous inquiéter, d'exiger de notre part du courage, des forces. En aurons-nous assez? Le pourrons-nous? Dans une ambiance d'angoisse, un esprit en repos. Sans crainte, affrontons ce que nous avons à affronter, puisqu'on a la menoura, on ne craint rien. Alors quand on est suroccupé, on peut tout de même, dans tout ce qu'on a à faire, avoir un esprit conscient, organisé, avec un peu de recul, et faire tout cela paisiblement, courageusement. Les petits chefs de bureau qui nous empoisonnent la vie, les adolescents, impossible. S'il y a des adolescents ici, ils doivent penser à leurs parents qui ne comprennent jamais rien. Cela n'empêche pas d'affronter ces réalités avec un esprit de menoucha, de calme, de courage, de confiance. Toutes ces forces obscures qui nous tirent vers le bas, qui nous inquiètent, dont on se dit « Mon Dieu, pourvu que… » Salomon ne dit pas « Mon Dieu, pourvu que… » Il ne parle pas du shalom qu'on aura un jour. Il ne parle pas du Shabbat qui fait qu'on ne fait rien. J'ai entendu hier une jeune fille qui disait à sa copine « Moi, j'ai été à la Martinique, le sable blanc, les cocotiers, j'ai eu une semaine paisible. » Alors c'est exactement ça que n'est pas la menoucha. Ça, c'est le Shabbat. Saint Paul avait dit dans l'Épître aux Éphésiens, ce n'est pas de Saint Paul, c'est d'un de ses disciples, mais c'est son esprit. Celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Salomon ne disait pas la gloire, il disait la bénédiction. Bon, c'est pareil. Alors, l'évangéliste Marc, à Rome, a trouvé que ce que disait saint Paul ou ses disciples, c'était un peu abstrait, c'était un peu théologique, cette puissance qui agit en nous, on se demande si on comprend vraiment ce que c'est. Et Marc a élaboré un petit récit à la manière juive. Vous savez, c'est machal, c'est un petit récit didactique qui fait qu'on comprend mieux. Et il a dit que Jésus affrontait la vie en marchant sur la mer. Alors les juifs, ils comprenaient tout de suite ce que ça voulait dire. Et Matthieu, qui a copié l'évangile de Marc, l'a repris, ce machal, et il a même rajouté le passage où Pierre marche lui aussi sur l'eau. Il faut comprendre que les Juifs, à leur époque, n'étaient pas des navigateurs. Ils n'étaient pas comme les Phéniciens ou les Grecs qui naviguaient aux quatre coins de la Méditerranée. Les Juifs, ils avaient peur de la mer. C'était comme ça, ils ne naviguaient pas, ils n'avaient pas de bateau, ils avaient peut-être des barques sur la mer de Galilée, mais même ce lac de Galilée, ils disaient, c'est la mer où il y a des tempêtes très inquiétantes. Ils ne craignaient pas seulement les tempêtes, qu'ils craignaient bien sûr, ils craignaient aussi les monstres, dont tout le monde sait très bien qu'ils sont dans la mer. Et ils ne craignaient pas seulement les monstres, mais ils craignaient la mer elle-même qui, lorsqu'on voit la puissance de ces vagues qu'on a vues récemment avec la tempête, ces vagues impressionnantes, n'ont-elles pas quelque chose de surnaturel? Quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Il n'avait qu'un mot pour désigner la mer et pour désigner la divinité de la mer. Il disait Yam. Yam, c'est le dieu mortel. D'ailleurs, les Cananéens disaient, ils luttent avec Baal. Yam, ce dieu inquiétant qui est là, Les Romains, eux, quand ils parlaient du dieu de la mer, ils disaient Neptune. Et Neptune, c'était bien au contraire. Un royaume de paix, un royaume, vous savez, où les esclaves servent leur maître et où les maris écoutent leurs femmes. Tout l'incroyable. Il l'avait fêté, justement, au moment du solstice d'hiver. Yam, ça n'était pas Neptune. Yam, c'était vraiment une puissance inquiétante. Et Marc n'a rien trouvé de mieux, et Matthieu a trouvé que c'était très bien, que de dire, Jésus, lui, il marchait sur Yam. Ces monstres, sa puissance maléfique, ces vagues, ces tempêtes. Salomon dit, ça n'est pas étonnant. Puisqu'on a la menoucha, on peut marcher sur Yam, toutes ces puissances inquiétantes. Yam qui résume tout ce qui nous affronte, nous empêche de vivre. Je vous cite un passage, il y en a pas mal dans l'Ancien Testament, le psaume 89. Éternel, toi, tu domptes l'orgueil de Yam quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu as écrasé le monstre Rab. Alors la Bible seconde dit, ça c'est l'Égypte. Dieu a écrasé l'Égypte avec le Pharaon. Oui, oui. Mais Rahab, c'est aussi le monstre qui est là-dessous. Celui que personne n'a jamais vraiment vu, mais dont on sent bien qu'il est là et qu'il nous empêche de vivre pleinement. Je vous cite le psaume 107. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête. Il a ramené le calme et les vagues se sont apaisées. Je vous cite le psaume 74. Éternel, tu as fendu la mer par ta puissance. Alors, la version seconde dit, il a fendu la mer. C'est Moïse, vous savez, qui fendait la mer pour qu'on puisse passer au travers. Mais le mot hébreu n'est pas fendre, c'est fracasser, c'est briser. Éternel, tu as fracassé Yam par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres dans les eaux. Tu as écrasé la tête du Léviathan. On traduit Léviathan en disant que c'était un crocodile. Mais c'était bien plus qu'un crocodile. C'était ces bêtes qu'on ne voit jamais, mais qui sont là et qui nous effrayent. Dans le récit du chapitre 1 de la Genèse, le récit de la création, le texte dédramatise et dit les monstres, ils sont dans la mer, ça c'est sûr, c'est indiscutable. Mais ils ne sont pas hostiles, c'est Dieu qui les a faits. Et c'est Dieu qui a mis les monstres dans la mer, déjà. On a moins peur. Alors Pierre, voyant que le vent était fort, a néanmoins marché vers Jésus sur la mer. Quel exemple, quel modèle de fidèle. Salomon aurait dit, en voilà un qui sait ce que c'est que la menoucha qui nous permet l'impossible. Et puis, ce que je vous dis n'est pas si simple, c'est que finalement, on peut quand même avoir peur. Et Pierre a eu peur. Quand il s'est rendu compte qu'il marchait sur Yam, il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et il a commencé à enfoncer. Et il a eu cette phrase, « Seigneur, sauve-moi ». Ça, frères et sœurs, c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire « sauve-moi », puisqu'on a la menoucha. D'ailleurs, Jésus le reprend tout de suite. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ? Frères et sœurs, pourquoi doutons-nous lorsque nous sommes en train d'affronter les forces dont je parlais tout à l'heure, qui nous tirent vers le bas ? Pourquoi parfois nous disons-nous, c'est impossible, Seigneur sauve-nous ? Vous n'avez pas à le dire. Salomon a dit, vous avez la menoucha, alors n'ayez pas peur, allez-y, carrément, sans crainte, avec l'Éternel, vous n'avez pas peur. Un chrétien n'est pas pessimiste. Un chrétien ne dit pas, tout va mal. Un chrétien ne dit pas, quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense. Un chrétien n'est pas optimiste non plus. L'optimiste, c'est celui qui dit « j'attends le shalom ». J'attends que chacun ait sa vigne, son figuier, et boive l'eau de sa propre citerne. Attendez. Il faut créer ce monde-là avec l'aide de notre roi, mais c'est toujours, évidemment, dans l'avenir. Ce que dit Salomon, c'est « pas de Shabbat ». C'est pas nécessaire pour être apaisé de partir à la Martinique sur le sable blanc et sous les cocotiers. Ça n'est pas nécessaire non plus d'espérer le shalom. Une chose, vous avez la menoucha alors, allez-y. L'attitude qui fait que dans la solitude, dans le découragement qu'on peut avoir, bien sûr, quand on a l'impression qu'on pourrait bien couler, lorsqu'on oublie la promesse rassurante de Dieu, lorsque nous sommes tentés de courir vers une chasse au miracle, il faudrait que Dieu fasse ceci et encore cela, alors que nous avons seulement à marcher sur l'eau dans un esprit apaisé. Chacun d'entre nous doit imaginer son propre récit. Nous ne disons pas, nous, qu'on marche sur l'eau. Ce sont des mythes, ce sont des symboles qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Nous en avons d'autres. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer un petit récit, un petit machal fait par mon ami le pasteur Roger Parmentier, c'était il y a bien longtemps, dans les années 70. Pensez-vous, il y a 50 ans, il était pasteur à Montreuil. À l'époque, ce n'était pas une ville heureuse et bourgeoise comme maintenant, c'était la ville de la misère et du communisme, craignant le fascisme, menaçant. C'était la lutte que menaient les communistes. Et Roger Parmentier était là, pasteur de ces gens-là, et il a écrit l'histoire de Jésus marchant sur l'eau, de la façon suivante que je vous lis. Il a dit, si ça n'est pas dans votre mentalité, dans votre esprit, écrivez vous-même votre propre texte. Aussi longtemps que vous n'avez pas écrit vous-même ce passage sur la mer, vous n'avez pas vraiment compris ce que c'est. Alors il a écrit, ce jour-là, vers la fin de l'après-midi, il leur dit, allons dans les beaux quartiers de l'Ouest. Matthieu disait, passons de l'autre côté de la mer. Allons dans les beaux quartiers de l'Ouest, comme on les appelle, les banlieues résidentielles. Il n'en pouvait plus de fatigue et dans le métro, ses compagnons protègent son sommeil. Dans la dernière partie du trajet, monte une bande de néo-fascistes, très excités, revenant d'une expédition. Sans tarder, ils agressent les camarades, rapidement submergés. Les coups succédant aux accusations méprisantes et aux injures. Et lui, le bras replié, continue à dormir. Ses compagnons le réveillent et s'écrient « Camarade, ne vois-tu pas qu'il nous enfonce ? » Réveillé, il fait front et en quelques paroles, il impose un grand calme. Les adversaires sont sidérés, mais il dit à ceux de son équipe, « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore cette foi fondée sur la grande réalisation, en marche ?» Profondément impressionnés, ils murmurent entre eux, « Ce frère a un secret en lui. » Frères et sœurs, ne dites jamais « Seigneur, sauve-moi !» parce que Jésus répondrait « Homme de peu de foi !» En grec, on dit une « oligo-foi », comme les oligo-éléments qui sont si petits, qui existent pourtant. Pierre avait une « oligo-foi ». « N'ayez pas une oligo-foi, disait Jésus, ne dites pas « Sauve-moi !» Puisez simplement la « menoucha » qui est en vous. Alors, je vous cite encore les Éphésiens, dont Marc disait « C'est compliqué !» Que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour et que vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, sur l'océan de la vie, Jésus a dit à ses disciples, « Passons sur l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, si ton cœur est en peine, n'aie pas peur. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu périrais, il a seulement dit « passons sur l'autre bord ». Amen.